Chapitre 43. Avant. Son ventre était rond et tendu comme un ballon de baudruche, parcouru de veines bleues et séparé en deux par une longue ligne de poils châtain foncé. Parfois, elle voyait le contour d'un petit pied appuyé contre sa peau si fine, un coude ou un genou, et une fois, elle avait même reconnu la forme délicate d'une oreille. Le fœtus qui vivait à l'intérieur d'elle roulait, boulait, dansait, tapait. Il appuyait contre ses poumons, son œsophage, puis se retournait et appuyait sur sa vessie, ses intestins. Noël lui avait acheté des livres sur la grossesse et des médicaments pour soulager les indigestions, les constipations et les maux de dos. Elle lui avait apporté un coussin spécial, en forme de banane, pour maintenir ses jambes écartées pendant la nuit. Elle y aimait ce coussin. Il ressemblait à une personne. Parfois, elle le prenait dans ses bras ou y posait sa joue. Noël lui avait aussi donné un livre de prénoms qu'elle venait lui lire régulièrement. Avec un stéthoscope, elles écoutaient les battements de cœur du bébé. Noël posait ses mains sur le ventre d'Elie et disait ce qu'elle sentait. « Dis donc, ce bébé a la bougeotte. Il se déplace très bien. Je pense qu'il sera bientôt en position. » Quelques semaines après avoir senti le fœtus pour la première fois, Elie avait compris qu'elle grossissait parce qu'elle était enceinte. C'était devenu de plus en plus évident au fil des jours. Un après-midi, alors que Noël était avec elle, elle avait essayé de lui demander, même si elle redoutait la réponse. « Quelque chose bouge dans mon ventre. J'ai peur. » Noël avait posé sa tasse de thé et lui avait souri. « Tu n'as aucune raison d'avoir peur, ma chérie. Aucune. Tu vas avoir un petit bébé, c'est tout. » Elie s'était mise à caresser son ventre machinalement. « C'est bien ce que je pensais. Mais comment est-ce possible ?»«
C'est un miracle, Elie. Maintenant, tu sais pourquoi je t'ai choisie. Je ne pouvais pas avoir de bébé moi-même, et j'ai demandé à Dieu de m'aider à concevoir. Il m'a dit que tu allais m'aider, que tu étais unique, que tu serais enceinte pour moi. »
Noël était euphorique et continuait son discours comme sur un petit nuage, les mains sur le cœur.
« Et regarde, regarde-toi, une immaculée conception, un bébé envoyé par le Saint-Père. Un miracle.
Mais je ne crois pas en Dieu. »
Noël se jeta sur elle, et Elie était désormais trop grosse pour pouvoir l'éviter.
Bam!
La main de Noël était venue s'écraser violemment à l'arrière de son crâne. Puis, elle était sortie de la cave en fermant les verrous avec fureur. Pendant les semaines suivantes, Noël refusa de répondre aux questions sur la provenance du fœtus qui grandissait en Elie. Elle continuait à sourire, à parler de miracles, et à débouler dans la cave avec des tout petits vêtements de chez Asda, des chaussons en tricot achetés au magasin de la Croix-Rouge, un petit lit en osier avec un matelas blanc et un rideau en Vichy, ou un livre en tissu qui couinait, se froissait et tintait quand on tournait les pages. Elle avait aussi apporté à Elie une crème pour ses pieds gonflés et chantait des comptines à son ventre. Puis un jour, au début du printemps, Elie se réveilla d'une humeur étrange. Elle avait mal dormi parce qu'elle ne réussissait pas à trouver une position où le bébé ne lui écrasait pas un organe. Dans ses intervalles de sommeil, elle avait fait des rêves très réalistes et choquants. Elle donnait naissance à un chiot minuscule et sans poils, qui devenait rapidement un chien adulte, une bête de l'enfer aux yeux rouges qui montrait les dents. Il la détestait et rôdait derrière la porte, grognant et bavant, en attendant que Noël ouvre la porte pour pouvoir enfin attaquer Elie. Elle se réveilla de ce rêve trois fois, transpirant et respirant fort. Dès qu'elle se rendormait, le chien était de nouveau là, derrière la porte. Elle avait vraiment envie de voir Noël ce matin-là. La nuit lui avait semblé si longue, presque sans fin. Elle avait besoin de voir un autre être humain pour rompre le mauvais sort qu'elle s'était elle-même jeté. Mais Noël ne lui rendit pas visite, ni le matin, ni au déjeuner. Chaque minute, l'inquiétude et l'angoisse d'Elie menaçaient de la submerger. Quand elle entendit enfin le bruit des verrous qui s'ouvraient en début de soirée, elle aurait pu se jeter au cou de Noël pour l'enlacer. Mais quand la porte s'ouvrit et qu'elle vit l'expression sur le visage de Noël, Elie se réfugia dans le cocon doux qu'était son lit. « Tiens !» lui dit Noël sèchement en jetant un bol de céréales, un paquet de biscuits apéritifs et quelques Oreos sur la table de chevet. « Je n'ai pas eu le temps de faire à manger !» Elie était assise les jambes en tailleur, les bras autour de son ventre, et regardait Noël avec un air surpris et peureux.
« Arrête un peu avec tes grands yeux marrons. Je n'ai pas que ça à faire. Mange !»«
Ce n'est pas très équilibré ?» hasarda-t-elle.
Noël faisait beaucoup d'efforts pour lui donner à manger des fruits et légumes depuis qu'elle était enceinte.
« Putain, mais ça va! Un repas de merde ne va pas vous tuer, toi et le bébé !»
Elle s'assit sur la chaise, furieuse. Elie attendit quelques minutes avant de reprendre la parole.
« Où êtes-vous allée ?
lui demanda-t-elle en ouvrant le paquet de biscuits apéritifs. « C'est pas tes oignons !»
Je m'inquiétais. Enfin, je me suis demandé ce qu'il se passerait s'il vous arrivait quelque chose à l'extérieur. Si vous aviez un accident ou étiez malade. Qu'est-ce que je deviendrais ?
Rien ne va m'arriver, ne sois pas bête.
Non, mais c'est une possibilité. Si vous aviez un traumatisme crânien, si vous oubliez votre adresse, je serais coincée ici avec un bébé dans le ventre sans que personne ne sache et nous mourrions tous les deux.
Je ne vais pas avoir d'accident, Ellie, lui répondit-elle exaspérée. S'il m'arrivait quoi que ce soit, je dirais que tu es là. D'accord ?
Ellie savait qu'elle était en train de perdre patience, qu'elle devait mettre un terme à cette conversation et se taire. Mais ce que Noël venait de dire, sur le fait qu'elle dirait qu'elle était là, c'était nouveau, inespéré et extraordinaire. Elle ne pouvait pas laisser passer cette chance.
« Vraiment ? » insista-t-elle à bout de souffle. « Bien sûr. Tu penses que je te laisserai mourir ici ?»«
Mais vous n'auriez pas peur ?»
Ellie hésitait.
« De la police ? D'être arrêtée ou quelque chose comme ça ?»«
Nom de Dieu, s'il te plaît, arrête ! Arrête avec tes bêtises ! J'en ai assez chié aujourd'hui, je n'ai pas besoin que tu en remettes une couche. Je passe ma vie à m'occuper de toi, et tout ce que tu fais, c'est rester assise sur ton gros cul en te posant 3 milliards de questions. J'ai tout mis entre parenthèses pour toi et ce bébé. » Alors arrête de pleurnicher et laisse-moi gérer ça. Incroyable.
Ellie hocha la tête et contempla longuement le paquet, les yeux pleins de larmes.
Et tes bêtes puent, au fait, marmonna Noël en faisant un mouvement de la tête vers les cages. Nettoie-moi tout ça ou je les noie dans les toilettes.
Et elle disparut. Ellie se retrouva de nouveau seule. Derrière la fenêtre, elle pouvait voir les arbustes effeuillés malmenés par le vent. Pendant qu'elle mangeait son repas et priait pour que Noël Donnelly soit renversé par un bus la prochaine fois qu'elle irait faire les courses, pour qu'elle reste à l'hôpital assez longtemps pour être contrainte de parler de la fille qu'elle séquestrait dans sa cave et du bébé miraculeux qui grandissait dans son ventre. Noël n'avait plus l'air de s'intéresser à l'enfant du tout. Plus Ellie grossissait, moins elle lui accordait d'importance. Plus de cadeaux, plus de noms de bébé, plus de vêtements ou de massages du ventre pour sentir le positionnement du fœtus. Elle venait toujours la voir 3 fois par jour pour lui apporter de la nourriture. Il n'était plus question de repas sains, bons pour le bébé, comme ça avait été le cas au début, de légumes bouillis ou de salades de concombre et de tomates, mais de viande frite sous une chapelure blanche, marron clair ou parfois orange. Et de temps en temps, elle venait discuter. Ses conversations étaient souvent sans intérêt, mais contenaient parfois des fragments d'informations importants, comme la température extérieure, ce qui l'informait sur le temps qui passait, ou l'augmentation du nombre de ses élèves, ce qui faisait penser à Ellie que les examens approchaient. Ces discussions avaient une fonction cathartique pour Noël, qui se délestait de ses soucis. Ellie avait d'abord trouvé ces changements d'humeur inquiétants, parce qu'elle ne savait jamais quelle version de Noël l'attendait derrière la porte. Mais au fur et à mesure, elle avait commencé à se faire une idée de la psychologie de Noël, et savait de quoi elles allaient parler rien qu'au rythme de ses pas dans l'escalier de bois, au bruit de la clé dans la serrure, à la vitesse d'ouverture de la porte, à la forme de ses cheveux autour de son visage, et au son de sa respiration lorsqu'elle s'apprêtait à lui dire bonjour. Aujourd'hui, elle savait que Noël allait se plaindre. Flop, flop, flop. Elle descendait l'escalier. Avant d'ouvrir la porte. Clic, quand le verrou s'ouvrait doucement. Et encore en refermant la porte derrière elle.
Voilà, annonça-t-elle en tendant son repas à Ellie.
2 tranches de pain de mie recouvertes de haricots en boîte avec des morceaux de saucisse, une crêpe au chocolat, une canette de boisson énergisante et des bonbons. Ellie se releva, prit le plateau des mains de Noël et la remercia. Elle se mit à manger en silence, tout en sachant que Noël bouillonnait à côté d'elle. Puis elle l'entendit respirer profondément.
« Je me demande pourquoi on fait tout ça. Pas toi ?»
Ellie lui lança un regard furtif avant de se concentrer de nouveau sur ses haricots. Elle savait que mieux valait ne pas parler quand Noël était dans cet état. Elle servait seulement de réceptacle.
Chaque jour, tous les efforts qu'on déploie pour réussir à sortir du lit le matin, et ça ne s'arrête jamais. Allumer la bouilloire, se brosser les dents, continua-t-elle en mimant les actions. Choisir sa tenue, sa coiffure, cuisiner, débarrasser, vider les poubelles, faire les courses, répondre au téléphone, laver ses vêtements, les faire sécher, les plier, sourire à tous les connards du coin, tous les jours, encore et encore.
Je comprends pourquoi certains vivent à la rue, franchement. Parfois, en les voyant entre leurs cartons, sous leur couverture sale avec une canette, je les envie.
Ils n'ont aucune responsabilité envers personne. J'étais folle de penser que je pouvais faire ça,
poursuit-elle en montrant la pièce, le ventre d'Ellie et les hamsters.
De nouvelles bouches à nourrir, encore plus de corvées, plus d'argent à dépenser pour acheter des vêtements, de la nourriture et faire le ménage. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Vraiment pas.
Elle soupira longuement et se leva. Elle allait partir, mais se retourna vers Ellie.
Ça va ?
Elle ne s'attendait pas à une réponse. Elle ne voulait pas savoir qu'Ellie n'avait pas bien dormi depuis plusieurs jours parce que le bébé l'en empêchait. Elle ne voulait pas entendre parler de ses maux de dents, ou du fait qu'elle n'avait plus de sous-vêtements propres et devait laver ses culottes dans l'évier, ou qu'elle avait besoin d'un nouveau soutien-gorge parce que ses seins étaient gros comme des pastèques, ou du fait que sa mère lui manquait tellement qu'elle en avait mal au ventre, ou qu'elle savait que l'été approchait car les journées étaient de plus en plus longues, et qu'elle pleurait en pensant à l'odeur d'herbe fraîchement tondue, au barbecue dans le jardin, à Jake sur le trampoline, à Teddy Bear, le chat allongé dans les flaques de lumière qui parsemaient le plancher. Elle ne voulait pas savoir qu'Ellie elle-même ne savait plus vraiment qui elle était. Alors de là à dire comment elle allait, elle était devenue une sorte de petite piscine de plasma. C'était tout. Parfois, elle avait l'impression d'aimer Noël. Parfois, elle aurait aimé qu'elle la prenne dans ses bras en la berçant doucement, comme un bébé. Mais le plus souvent, elle voulait l'égorger et regarder le sang s'écouler lentement de son corps, entre ses doigts, et sentir son déclin, sa mort. Ellie avait entendu parler du syndrome de Stockholm. Elle connaissait l'affaire Patty Hearst et les risques d'une longue captivité. Ses sentiments étaient normaux, mais il fallait tout de même qu'elle lutte contre ses élans affectueux, contre ces moments où elle recherchait l'attention et l'approbation de Noël, pour ne pas les laisser dominer. Ellie devait se raccrocher à la part d'elle-même qui voulait que Noël meure. Car cette part forte et saine, c'est elle qui lui permettrait un jour de rentrer à la maison.